Radio 1, premier sur l'info.
Mercredi 19 novembre, le journal de la mi-journée présenté par Samia Stambouli. Bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. La journée des droits de l'enfant commence demain. Elle est célébrée partout dans le monde. L'occasion de dresser un état des lieux avec le Fare Tamahau. La saisie de la viande de tortue, il en sera question dans ce journal après celle de près de 100 kilos vendredi. Le directeur adjoint des douanes s'expliquera sur la procédure utilisée lors de sa destruction. La semaine du Monoï commence demain. Une huile qui fait la richesse de la Polynésie et de nombreux producteurs. Le thème retenu cette année, émotions positives. Les précisions en fin de journal. À tout de suite.
Alors, le Fare Tamahau organise une journée de prévention à destination des enfants de phare.
En effet, pour la 10e année consécutive, le Fare Tamahau relaie la journée mondiale des droits de l'enfant célébrée demain. Il organise des animations à la maison de l'enfance qui se trouve à côté de l'école Farahei à Faa. Dans la matinée, les élèves de la commune seront sensibilisés sur le thème du respect auquel ils ont droit. Objectif de l'événement, libérer la parole chez l'enfant et l'inciter à solliciter de l'aide lorsque ses droits sont bafoués. Hélène Richardson est assistante sociale au Fare Tamahau, elle est au micro de Tamara Sentis.
Comme toute société, il y a aussi des difficultés en Polynésie et donc le Fare Tamahau veut sensibiliser la population aux droits de l'enfant pour justement que ces difficultés des enfants puissent disparaître un jour, au moins qu'on œuvre pour que ça aille de mieux en mieux, que des parents puissent prendre conscience et puissent se faire aider aussi quand c'est nécessaire.
Alors quels sont les droits des enfants qui sont le plus souvent bafoués ?
Malheureusement, j'ai envie de dire qu'un des problèmes principaux, c'est les agressions sexuelles, beaucoup dans le milieu familial. Et donc, le droit d'être protégé, là, il est un peu pas mal bafoué, quoi. Donc, moi, c'est à ce droit-là auquel je pense, là. C'est vrai que malheureusement, ça éclate difficilement. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas hésiter, si vous êtes victime, à vraiment se tourner vers un adulte de confiance.
À partir de 14h, c'est toute la famille qui sera invitée à participer à cette journée. Une opportunité de proposer de l'aide aux parents en détresse.
Honora Ouwa, cette vaste consultation du monde de la culture, délivre ses premières mesures.
Eremoana Mamhatuya Hutapu a présenté hier une restitution aux acteurs de la culture. Cette consultation avait été lancée il y a 3 mois par son prédécesseur Jeffrey Salmon. Les axes retenus ont été présentés par le ministre en devenir. Parmi les mesures phares, la création d'une carte pour les artistes et l'aide à la création artistique par l'instauration du 1% artistique dans les constructions publiques. Je vous propose de l'écouter.
Appliquer comme en métropole un texte sur les commandes publiques qui prévoit donc sur la conception et le financement d'ouvrages financés par le pays, eh bien une commande d'artiste, ça peut être de la sculpture, ça peut être de la peinture, pour agrémenter, on va dire, bâtiments. Les architectes qui étaient présents aujourd'hui ont proposé même d'aller plus loin et pourquoi pas de travailler sur un label architectural polynésien afin d'avoir une certaine architecture dans les constructions qui soient en gros des recommandations du pays pour que l'on ait un type architectural dans les constructions.
Alors, à ton avis, quand est-ce que ça pourrait voir le jour au Fénois ?
Alors nous, de notre côté, nous avons commencé à prendre contact avant même la restitution d'aujourd'hui, puisqu'on avait eu déjà un aperçu de ces propositions. Sur le principe, la proposition du 1% artistique a été plutôt bien acceptée, voire très bien acceptée par mes collègues du Conseil des ministres. Je pense qu'en 2015, on devrait pouvoir commencer à voir ce dispositif être mis en place.
Il était interrogé par Vaïté Ourali Pambrin.
Il est l'heure d'accueillir notre invité dans ce journal, le docteur Henri-Pierre Mallet.
Docteur Mallet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, le pays a annoncé la mort de 2 personnes du troisième âge qui avaient déjà des antécédents cardiovasculaires. Un point d'abord sur ces 2 pertes. Le chikungunya a-t-il un lien direct ou indirect avec ces 2 décès ?
Alors oui, évidemment, on fait les titres avec ces décès, malheureusement. C'est vrai que ces décès sont survenus dans ce contexte d'épidémie de chikungunya et qui sont probablement liés dans le sens où les résultats sanguins pour ces personnes étaient positifs au chikungunya et ils sont décédés pendant une infection chikungunya. Pour autant, comme vous l'avez dit, en fait, c'est ce qu'on peut redouter dans une épidémie comme celle-là. C'était des personnes âgées qui avaient des maladies chroniques importantes et qui ont très probablement décompensé, aggravé leur maladie à l'occasion de cet épisode aigu qui est comme une grosse grippe, hein, finalement, et qui a abouti à leur décès.
Vous l'avez dit, les personnes cardiaques sont des personnes particulièrement fragiles, au même titre que les nourrissons ou les personnes âgées. Il faut donc redoubler de vigilance.
Oui. Bon, actuellement, je dirais que je pense que les gens sont vigilants en termes de soins, puisqu'on le voit bien, hein, l'affluence au niveau de l'accueil des soins montre que les gens sont même un peu trop inquiets parfois, puisque consultent pour... Pas toujours à bon escient. Pour les personnes les plus fragiles, qui sont effectivement les personnes âgées avec des pathologies sous-jacentes, il faut être vigilant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter non plus dans les centres de consultation ou à l'accueil. Mais
Docteur Patrick Howell l'a dit hier, l'hôpital du Taonnet est quelque peu saturé, comme l'est toujours d'ailleurs celui de Taravao au début de l'épidémie. Il en appelle à la solidarité des cabinets médicaux et des cliniques privées. Docteur Henri-Pierre Mallet, faut-il consulter obligatoirement un médecin quand on a le chikungunya?
Non. Non, je dirais non. Maintenant, en tant que médecin moi-même, je peux effectivement pas trop dire que médecin ne sert à rien. Mais simplement, il faut bien comprendre. Le chikungunya, c'est une fièvre virale importante. Il faut la comparer un petit peu à une épidémie de grippe, donc qui va donner des signes importants, douloureux, fébriles, mais qui vont être bien supportés par la grande majorité des gens qui sont en bon état général. Donc il n'y a pas lieu de se précipiter chez son médecin. En général, en 2 à 3 jours, le problème est résolu. Donc encore une fois, ce sont surtout les personnes fragiles, donc les tout petits, et les plus âgés qui doivent consulter. Les personnes en bon état général peuvent attendre. Si ça ne passe pas ou si les douleurs sont vraiment trop importantes au bout de 3-4 jours, à ce moment-là, oui, consulter, mais ne pas se précipiter.
D'accord. Un petit rappel rapide sur les mesures de prévention qu'on ne répétera jamais assez, docteur Mallet.
Ben oui, vous le savez, donc c'est transmis par toujours ce même moustique, hein, on en parle suffisamment. Donc c'est se protéger des piqûres de moustiques au maximum. Pour ça, plusieurs moyens. Empêcher qu'ils naissent, les tuer lorsqu'ils sont vivants et faire en sorte qu'ils ne nous piquent pas. Donc on a plusieurs moyens. C'est le dégitage, c'est le traitement insecticide qu'on peut faire dans la maison soi-même, hein, avec des bombes. C'est les actions de la lutte antivectorielle de notre service, mais qui ne passera pas partout, qui ne peut pas passer partout, et ça serait pas non plus bénéfique. Et puis c'est surtout chacun doit se protéger des piqûres, et en particulier les malades, pour à leur tour ne pas transmettre la maladie lorsqu'ils sont malades. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent la transmettre via les moustiques.
C'est très important de le rappeler. Sachez que demain, les pulvérisations auront lieu à Papété, quartier Mamao, au début de Titioro, dès 7h du matin. Merci docteur Mallet d'avoir été notre invité.
Cette question maintenant, que va devenir la viande de tortue saisie par les douanes?
C'est une question que vous vous êtes posée suite à la saisie vendredi dernier de près de 100 kilos de viande de tortue par la douane. Bruno Hamon, directeur adjoint des douanes, nous assure que toute la viande est détruite. Écoutez ses précisions, il est interrogé par Vaïté Ourali Pambrin.
Il y aura d'abord des prélèvements et des analyses qui seront faites sur la viande elle-même, parce qu'il y a des tortues qui sont dangereuses à la consommation, d'une part, et d'autre part, l'ensemble de la marchandise va être détruite, parce que d'une part, c'est une marchandise qui est interdite, et d'autre part, il n'y a aucune utilité à lui faire suivre un autre circuit que la destruction.
Et comment est-ce que vous la détruisez?
On a deux solutions. Généralement, les destructions se font en mélangeant le produit avec du bleu de méthylène. Ça, c'est une mesure tout à fait classique. Là, je pense qu'on va confier la viande de tortue à une société en charge de détruire la viande et on va s'assurer qu'elle est bien détruite.
Et les médias ne sont pas invités à cette destruction?
Si on peut, comme on l'a fait pour les contrefaçons, je pense qu'on sera amené à le faire pour bien montrer que dans l'esprit de chacun, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que deviennent les produits qui sont saisis en douane. Hein. Ceux-là ont vocation à être détruits. Ce sont des produits complètement interdits à la commercialisation, à la pêche et à fortiori à la vente. Soit on les détruit, soit on les vend. Mais là, bien évidemment, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est un produit interdit, donc il sera détruit.
Rappelons que la tortue est une espèce protégée par la Convention de Washington. Le transport, la détention, la capture, la commercialisation, l'importation et l'exportation sont donc strictement interdits. Tout contrevenant est passible de sanctions pénales assorties de la saisie des moyens de transport et de pêche utilisés.
Et puis, plus léger, la semaine du Monoi Reva.
Positive, émotion, c'est le thème retenu pour la 6e édition de Monoi Here. Faut-il encore le dire, le Monoi, c'est aujourd'hui plus de 400 marques, pas seulement pour son appellation, mais aussi pour son efficacité, comme l'hydratation de la peau ou encore le gainage. Monoi Here, c'est donc aussi l'occasion de découvrir les vertus de notre huile traditionnelle. Eric Vaxeller est le directeur du groupement interprofessionnel du Monoi de Tahiti. Il est interrogé par Vaito Rari Pambrin.
Positive Emotions, parce qu'on avait envie de mettre toujours un peu de gaieté dans cet événement, mais également de démontrer que même les gens qui ne connaissent pas le Monoi, dès qu'ils le touchent, dès qu'ils le sentent, et même s'ils ne sont jamais venus en Polynésie, ils trouvent quelque chose de magique, et on va essayer de faire parler les gens pour leur faire dire pourquoi ils trouvent ça magique et qu'est-ce qu'il y a de magique pour ce produit polynésien. Alors, il y en a beaucoup de nouveautés. La première, c'est qu'on a des nouveaux intervenants. Je vais donner deux exemples. On a un jeune pêcheur, Itoamutu, et en fait, il a, entre guillemets, appris la recette du Monoi en faisant un rêve. Donc il sera là pour expliquer et pour montrer des Monoi, parce qu'on les a testés, on les a sentis, on les a touchés, et qui sont super bien. Donc c'est bien de voir des jeunes qui se mettent à ça.
La semaine du Monoï, c'est donc demain et jusque dimanche à la Maison de la Culture.